moi, j'ai détesté ma voix. Ça a été une des causes de toute l'homophobie que j'ai pu subir enfant, toutes les insultes et tout ça. C'était surtout ma voix qui était tellement affectée, tellement maniérée. Donc ma voix, franchement, elle est cause que de souffrance pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et ça n'est que tout d'un coup, je me retrouve dans un studio à France Inter et je me mets à lire des textes et on me dit « Oh, votre voix !» Je dis « Bon !» Et tout d'un coup, je suis machin Béranger et il n'y a qu'à la radio que j'ai confiance dans ma voix.
C'est l'histoire d'un homme qui écrit « Le théâtre est le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à mon milieu et ne plus être ce que j'étais en train de devenir. Un mondain efféminé et trop bavard qui sortait tout le temps. Une échappée avec Guillaume Gallienne, c'est Totémique jusqu'à la prochaine heure. » Guillaume Gallienne publie son premier livre, Le buveur de brume, dans la collection Ma nuit au musée. Comme son nom l'indique, il s'agit de passer une nuit entière dans le musée de son choix et d'écrire. Lui a voulu installer un lit de camp dans le musée national de Tbilissi, en Géorgie, sous le portrait de son arrière-grand-mère. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais des fantômes vont entrer en scène. Une mythologie familiale, une lignée géorgienne, une enfance et le roman d'un acteur. L'acteur, l'homme et le père que Guillaume Gallienne est devenu. Il m'a donné rendez-vous à la Cité internationale universitaire de Paris pour un homme dont les origines sont géorgiennes, espagnoles et qui chérit l'Angleterre. C'était raccord.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous, qu'est-ce que vous faites à la Cité universitaire, là ?
Je tourne.
Ah, d'accord.
On tourne une comédie de Rémy Besançon avec Laetitia Casta et Gilles Lelouch. Voilà. J'ai juste une tendinite parce qu'hier, j'ai fait un combat à l'épée toute la journée. Mais sinon, voilà, je vieillis.
Vous avez quel âge, hein ?
53 ans.
C'était le bon moment pour écrire ?
Je ne sais pas si c'est le bon moment. En tout cas, le fait qu'on m'ait fait confiance, surtout, c'est l'avantage de la commande.
Vous ne l'auriez pas fait de vous-même ?
Alors, j'y pensais, mais je ne sais pas si je me serais lancé comme ça. Je ne sais pas. Il y a un livre, en fait, que j'ai en tête depuis un moment et que je vais écrire, du coup. Bah ouais.
C'est comme si celui-ci, vous avez mis un peu le pied à l'étrier.
Complètement, mais complètement. Et puis j'ai adoré ça surtout. J'ai adoré ce travail, j'ai adoré... Ça a été difficile parce que moi, pendant la nuit, j'ai dû écrire à peu près une trentaine de pages. Puis dans les 15 jours qu'on suivit, une quarantaine, mais tout ça n'était que de la colère. Et après, pendant un an et demi, j'étais incapable d'écrire ce livre. Incapable. Et il y a des moments où... C'est comme en répétition aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on plonge et on y va. Et on y va, et tant pis si c'est nul, et tant pis si... Faut y aller, et puis après on corrige, et on reprend, et on re-reprend. Ça, c'est vraiment très intéressant comme travail aussi.
C'est intéressant, et c'est ingrat.
J'y pense pas comme ça, parce que c'est tellement nécessaire, il s'agit d'une telle nécessité, en tout cas de sincérité, que pour moi, c'est pas ingrat. C'est un rapport à... Pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est mon premier. Mais c'est vraiment de l'ordre du sincère.
Ça semble tout simple, la sincérité.
Ah non. Moi, par exemple, dans ce livre, je trouve qu'il y a des moments où je trouve que c'est pas assez bien écrit. Et en même temps, dès que je stylisais, ça n'était plus moi qui parlais. Or là, c'est moi qui parle. Et donc, c'est le pacte. C'est en l'occurrence, c'est le pacte pour moi de ce livre. C'était je. Bah, c'est important en plus, parce que c'est un livre qui est vraiment sur la transmission et qui est en plus que je dédie à mon fils. On part du prince Tado, qui était donc le père de mon arrière-grand-mère, jusqu'à Tado, mon fils. Et donc ce trajet-là, c'est moi qui fais le lien. Et donc à partir du moment où c'est ma voix, dès que je stylisais, ça devenait pompeux, ça devenait... Enfin non, c'est pas moi. Donc je ne pouvais pas trop styliser. Et parfois, ça m'embêtait, parce qu'il y a des phrases que je trouve franchement pas terribles. Ben oui, mais c'est comme ça.
Mais on peut avoir une idée, justement, on peut se dire, mais en fait, être sincère, c'est facile.
Je sais pas, moi, je...
J'ai pas l'impression que vous êtes très d'accord avec ça.
C'est pas ça, c'est que, en tout cas, c'est très facile de fabuler. Et c'est très facile de se donner, de se créer un personnage. Et moi, je dois faire gaffe à ça, beaucoup. Baisse d'un ton, mon gars. Enfin, ça va. Non, mais c'est vrai, je suis habitué, mais parce que Parce que j'étais entouré de femmes qui avaient tout le temps une superbe, du panache, du... Et voilà, et non, gomme. De toute façon, la vie d'un artiste, pour moi, c'est ça. Gommer la discipline, elle est là. Hein.
C'est un livre sur la transmission, sur vous, l'héritage familial dont vous êtes le dépositaire, et vous dédiez ce livre à votre fils. Au-delà de cette histoire familiale, vous souhaitez lui transmettre quoi à votre fils Tado ?
Je souhaite surtout le débarrasser d'archives et de fantômes que moi je trimballe, et j'avais envie de les déposer et lui dire voilà.
Page blanche.
Ouais. Ils sont là, ils seront dans ta bibliothèque, t'es pas obligé de te les coltiner. Mes deuils sont les miens, sont pas les tiens. Tu sais où les trouver, mais en tout cas, te les trimballe pas. En fait, j'avais envie aussi d'écrire sur l'héritage, ce qu'on nous lègue, et aussi les atavismes, mais aussi un livre pour l'anti-atavisme. C'est-à-dire dire, on n'est pas prisonnier forcément de son passé, on n'est pas forcément obligé de reproduire un schéma. Il y a certaines choses qu'il est difficile d'abandonner, il y a des choses qui sont difficiles de ne pas reproduire. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de bien s'entourer, mais je pense que c'est possible.
J'aimerais qu'on revienne sur une chose que vous venez de dire, et qui d'ailleurs pour moi est vraiment le sujet du livre, c'est la colère. Mmh. Et vous dites, à la fin du livre, que vous avez écrit tout ce livre en colère.
Ah, je n'ai pas pensé comme ça. Non, je ne pensais pas avoir écrit... Enfin, je ne me souviens pas... Non, je ne l'ai pas écrit en entier en colère. Enfin, si, quand même, beaucoup. Oui, enfin, j'étais... C'est vrai, j'ai mis du temps. Non, mais j'ai mis du temps. Après, c'est des colères variées, à rythme variable.
Et il en tire le fil. Dénoue la pelote. J'ai hérité de mon père, son autorité et sa colère. C'est la première phrase d'un chapitre au début du livre de Guillaume Gallienne, Le buveur de brume. Il écrit « Cette colère terrible qui peut m'envahir en quelques secondes et jaillir comme la lave d'un volcan en éruption. Autant ma mère râlait beaucoup quand on la dérangeait, c'est-à-dire tout le temps, autant mon père, lui, hurlait. Il ne frappait jamais ma mère, mais nous, souvent. La plupart du temps, des coups de pied au cul, mais parfois des coups de ceinture. Il nous les donnait lorsque sa colère était plus contenue, plus froide. » 4 pages plus loin, c'est la grand-mère paternelle de Guillaume Gallienne qui entre dans son livre. Il écrit « Elle est née en 1895. Ses parents ont divorcé l'année de ses 10 ans. Le jour de son départ du foyer familial, se retournant vers ses deux filles et leur mère, leur père a dit « J'en veux une des deux ». Et sans autre forme de procès, la mère a tiré par l'épaule sa fille aînée, ma grand-mère, et l'a poussée en répondant « Prends celle-là ». Comment ne pas être à jamais en colère après un rejet aussi abominable? J'imagine que cela a autant influencé son enfance qu'ensuite celle de mon père, et par ricochet, la mienne.
Et moi, heureusement, j'ai écarté quand même beaucoup de choses pour ne pas les reproduire sur mon fils, mais quand même la colère, malheureusement, elle est restée, celle-là.
Mais d'une certaine façon, cette colère, elle vous a rendu service aussi.
Ah ouais?
Mais oui, parce que vous expliquez que le théâtre a été pour vous un moyen de la dévier.
Oui.
C'est-à-dire que cette colère, elle est fondamentale dans votre vie d'homme, et dans votre parcours professionnel. Parce que c'est au moyen du théâtre que vous l'avez détourné, quoi.
Mais le théâtre, c'est une survie, dans tous les sens du terme.
Au carré et dans le sens de survivre.
Ouais. Pour moi, c'était obligatoire. C'est aussi une addiction, mais c'est je commence à m'en défaire un peu.
Mais pourquoi le théâtre a été une addiction? Ça a été la vôtre, en tout cas. Vous dites en une phrase que vos frères et sœurs en ont eu d'autres.
Pas tous. Certains de mes frères et sœurs ont eu des addictions, pas tous, heureusement. Mais moi, ça a été une addiction parce que c'est le seul endroit où je me sentais capable. Le théâtre était vraiment l'endroit où je pouvais... où je me sentais capable. Sinon, je me sentais peureux de tout et très incapable. Ah, pardon. J'avais pas avionné. Oh, n'importe quoi. Pardon, j'avionne. Le verbe avionner.
L'une des choses dont vous avez hérité, c'est notamment l'art de la conversation.
Oui.
Mais c'est quoi ça ? C'est quoi l'art de la conversation ?
Ben, c'est un peu comme les bonnes manières, il suffit de s'intéresser aux autres. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et d'établir un dialogue qui va avec ce que vous ressentez de l'autre. C'est se mettre au diapason, c'est jouer ensemble. C'est une joute aussi.
C'est une petite représentation, un peu.
Je mettrais ça plus sur le compte de la séduction que de la représentation.
Il y a de la séduction.
Ah oui, il y a de la séduction dans la conversation, bien sûr. Bah regardez-vous, regardez, pardon. Chers auditeurs, vous ne voyez pas les yeux absolument sublimes de Rebecca Manzoni. Moi, je les vois. Et elle est là, elle allume la lumière, mais c'est extraordinaire. Donc, de la séduction, dit-elle naïvement. Non, bien sûr, évidemment de la séduction. J'adore. Non, mais oui.
Alors, de la séduction, ça passe aussi donc par le verbe.
Par le verbe, par la voix, par les intonations, par...
Est-ce que vous avez pleinement confiance en votre voix ou vous vous en méfiez ?
Ma voix ?
Oui.
Ah non, alors ma voix, j'ai une confiance quand j'ai un casque, que je suis en studio et que j'ai le droit de me planter. Ça, oui, autant que vous voulez. Mais sinon, aucune confiance dans ma voix. Aucune. J'ai travaillé ma voix pendant 4 ans avec un phoniatre, j'ai travaillé ensuite 10 ans de chant. Moi, j'ai détesté ma voix. Ça a été une des causes de toute l'homophobie que j'ai pu subir enfant, toutes les insultes et tout ça. C'était surtout ma voix qui était tellement affectée, tellement maniérée. Donc ma voix, franchement, elle est cause que de souffrance pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et ça n'est que tout d'un coup, je me retrouve dans un studio à France Inter et je me mets à lire des textes et on me dit « Oh, votre voix !» Je dis « Bon !» Et tout d'un coup, je suis machin Béranger et je sais pas pourquoi, mais vraiment, ça a été que ça peut pas faire de mal sur France Inter. Et là, on me dit votre voix. Ah bon ?
C'est la radio qui vous a fait prendre confiance en votre voix.
Ah oui. Et il y a qu'à la radio que j'ai confiance dans ma voix. Après, j'ai confiance dans ma voix dans le sens que je ne réfléchis jamais à la voix de mon personnage. C'est drôle là, Rémi Besançon avec qui je tourne là, il me dit composition par la voix. Je dis « Pardon ?» Il me dit « Oui, t'as trouvé ton rôle par la voix. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Mais tu t'en rends pas compte, t'as la voix beaucoup plus grave et tu parles beaucoup plus lentement quand tu joues. »« Ah bon ?» Et je n'y pense pas. En fait, le rôle se manifeste en moi par la voix. Par exemple, Lucrèce, on me disait « Oh, et puis quand vous modulez votre voix de femme, je module rien du tout, ma poule. » C'est uniquement dès que j'endosse... C'est le rôle qui rentre en moi et qui fait que immédiatement, ce sera un Idor. Il est beau. Et ce sera cette émotion-là, je m'en souviens d'ailleurs, qui jaillira et qui fera que la voix sera dans les aigus ou pas, ou je sais pas d'ailleurs.
Elizabeth Woolridge Grant, dite Lana Del Rey, Bluebird. C'est le titre du morceau qui suit.
Guillaume Gallienne, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
Dans Le Buveur de Brume, premier livre de Guillaume Gallienne, il a choisi de passer la nuit dans un musée de Tbilissi, en Géorgie, là où est exposé le portrait de son arrière-grand-mère, la princesse Melita Cholokashvili. Beaucoup de femmes entrent en scène dans ce livre. Et celle que Guillaume Gallienne a choisi d'écouter, c'est Claude Mathieu, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, qu'il a notamment mis en scène pour son spectacle « Les garçons et Guillaume à table ». Claude Mathieu est entré à la Comédie-Française avec le rôle d'Irina dans « Les trois sœurs » de Tchekhov. C'était en 1979, dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon, et en voici un extrait.
J'ai été télégraphiste, à présent je suis à l'hôtel de ville. Je méprise, je déteste tout ce qu'on me donne à faire. J'aurai bientôt 24 ans. Je travaille depuis des années. Mon cerveau s'est desséché. Et j'ai maigri, j'ai vieilli. Et rien. Aucune satisfaction. Le temps passe. Il me semble que l'on s'éloigne de plus en plus de la vraie vie. De la belle vie.
Waouh. Ah, ça m'émeut. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle en a dans le buffet. Hein. Waouh. Elle peut aller tellement loin. Oh. Le texte a l'air si simple. C'est si simple et c'est des gouffres.
Pourquoi vous vouliez l'écouter, Claude Mathieu ?
Parce que les femmes m'ont sauvé et que je n'ai pas... J'avais pas la voix de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, qui sont des figures très importantes dans le livre, mais elles représentent une figure très importante dans ma vie, et que j'aime cette profondeur-là, j'aime cette honnêteté, et cette retenue. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de retenue. Elle empêche le gouffre d'exploser. Elle le maintient sur un fil qui est celui de l'auteur. Et elle canalise tout pour que ça reste dans le texte de l'auteur. Mais sinon, ça pourrait partir dans tous les sens, là, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle le canalise. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Et on fait non, on reste sur une ligne. Mais je voulais une femme, je voulais une voix de femme, parce que... Oui, parce que c'est leur force, c'est leur courage qui m'en a donné.
Elles vous ont sauvé parce qu'elles vous ont donné du courage ?
Ouais. Mais parce que je me sentais absolument pas capable de m'accaparer ou de m'octroyer une force masculine. Elle m'a été retirée d'office. Donc je suis allé la chercher là où je pouvais, c'est chez les femmes. Ça, j'y avais le droit, visiblement. Et puis j'ai vu quand ça... Ce qui faisait à peine surface et ce qu'elles essayaient de cacher ou de garder.
Au point que vous êtes leur confident, en fait.
Je l'ai été beaucoup, ouais. Moi, maintenant. Mais je l'ai été beaucoup, oui. À une époque, j'allais dans des soirées pratiquement que de nanas, mais limite, elles se mettaient à raconter des trucs où je crois qu'elles oubliaient que j'étais un mec, quoi. Parce que sinon, elles auraient peut-être pas dit ce qu'elles ont dit, ouais. Ah ouais. C'était cru, parfois. Hein. Puis en plus, en nommant. Chose que les mecs font rarement. Ils peuvent être très crus aussi, mais sans nommer. Alors que là, c'est en nommant. Hein. Waouh, puis avec le détail, ouais.
Ça vous plaisait ?
Mais ce qui m'amuse, c'est lorsque l'intime peut être partagé et que c'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave. Ça me touche, ouais.
Vous avez énoncé plusieurs qualités de ces femmes qui vous ont inspiré, et puis il y a l'humour.
Ouais. Mais vraiment, je suis content que... Ouais, c'est vrai, oui, il y a vraiment l'humour. Ouais, elles sont drôles. Ouais, elles sont drôles.
Mais toutes, votre arrière-grand-mère, votre grand-mère et votre mère.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est une chance, quand même.
Énorme, énorme, mais c'est vrai. Mon père aussi, hein, sa manière. Mais mon père aussi pouvait être très drôle. Mais c'est vrai, j'ai eu la chance, oui, l'humour et le charme. Là aussi, ma mère et mon père. Beaucoup de charme. Heureusement, il fallait bien ça, Eddie. Non mais pardon, mais heureusement, ça sauve.
Fallait bien ça au milieu de la violence.
Ben ouais, ouais. Et du manque de tendresse.
Au milieu de la violence verbale.
Physique aussi, et puis... Ouais, ouais, la dureté. Ouais, là, c'était dru, c'était... Ouais. Mais il y avait de l'humour et du charme.
De fait, j'aimerais vous faire écouter la voix d'une autre comédienne.
Ah oui.
Alors, attendez.
Mesdemoiselles, messieurs, la conférence que je vais avoir l'honneur de faire devant vous,
oh.
Sous la présidence honorifique...
Jacqueline Maillan, je connais par cœur, c'est ce que...
Effective. De monsieur Anatole Méchard, le grand spécialiste de la sinusite et des refroidissements, et de monsieur Eugène Gras, le premier alpiniste qui fut le premier... à monter sur le Puy de Dôme, vous raterez aujourd'hui à mon dernier exploit comment j'ai planté le drapeau français au sommet du mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude.
J'adore, je connais par cœur.
Je ne m'étendrai pas davantage sur moi-même. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Je rappellerai brièvement les trites des conférences données à l'issue de mes nombreux voyages. Week-end chez les Pygmées. La Bourboule et son folklore, 20 000 lieues sous les mers, etc., etc.
Elle est géniale. Qu'est-ce que je l'aime. Elle est extraordinaire. Et une petite anecdote amusante, c'était un lundi. Ah non, mais ça, c'est... Elle est géniale.
Mais en fait, je pensais à Jacqueline Maillan parce qu'il y a cette aristocratie,
oui.
Quand même, dans l'élocution, dans la façon qu'elle a de parler, mais en même temps, elle peut dire « Robert, vous me faites chier ».
Ah ben, évidemment.
Et oui. Je trouve que, vraisemblablement, en tout cas dans ce que j'en comprends, il y avait de ça chez votre grand-mère, par exemple.
Oui, après, alors...
Y compris chez votre mère, parce que dans Les garçons et Guillaume à table, il y a aussi ce côté-là.
Oui, complètement. Mais ça, c'est assez propre à l'aristocratie. Bah, déjà, le vouvoiement permet de faire passer l'insulte, non plus pour une insulte, mais pour une information. Donc déjà... Donc déjà, bon, c'est quand même mieux. Et vous la recevez ou pas, mais voilà. Mais c'est ce que me dit mon arrière-grand-mère à un moment. Elle me dit, mais parfois, elle avait l'accent russe, mais je ne veux pas le faire, mais bon, elle disait, parfois, on peut être grossier. Bon, c'est dommage, mais ça peut arriver. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que mince, c'est vulgaire parce que c'est le merde de quelqu'un qui ne l'assume pas. Donc il faut dire merde, il faut l'assumer. Mais bon, elle le disait quand même très rarement. C'était pas son genre.
Elle avait de la retenue.
Oui. Et puis surtout, elle avait suffisamment d'autorité pour ne pas avoir besoin d'en arriver aux mots. Le regard suffisait amplement.
Extrait du Buveur de brume de Guillaume Gallienne où il évoque son arrière-grand-mère qu'il appelait Babou. Alors qu'elle était au ski dans une station en Autriche, un baron local s'était entiché d'elle. Quand elle quittait les pistes pour aller déjeuner, le baron autrichien, se piquant de parler un bon français, mais avec un accent très prononcé, l'accueillait tous les jours depuis la terrasse de l'hôtel en se levant de sa chaise et en ôtant son chapeau. Et tous les jours, il lui demandait avec un grand sourire qui se voulait charmeur « Ponchour, princesse, avez-vous bien chié ce matin ?» Babou lui répondait à chaque fois « Oui, merci baron, j'ai très bien chié ce matin !» sans jamais lui dire, bien entendu, que c'était en allemand que l'on prononçait ainsi le verbe, mais qu'en français, on disait « skier » en faisant sonner le « k ». Good to know, nouveau morceau de Loose and the Yakuza.
J'ai plein de larmes qu'on s'étend. peuvent se casser. Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en l'air. La manie de mentir pour se jeter la pierre. On se force à être poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir.
Le buveur de brume, livre de Guillaume Gallienne, est le roman d'un acteur, d'un fils, d'un époux et d'un père. Il se passe le temps d'une nuit dans une galerie de Tbilissi en Géorgie. La Géorgie est un pays où Guillaume Gallienne a vécu quelques-uns des moments de bascule les plus importants de sa vie.
Oui, ça m'a permis d'être un homme. Oui.
Ça veut dire quoi ?
Ben, en tout cas, de m'affranchir de choses imposées, de m'affranchir de clichés, d'accepter des choses,
de vous opposer à votre père pour la première fois.
Ouais, ouais. Ah oui, je l'ai envoyé paître. Oh. Ah oui, je l'ai bien envoyé paître.
Ah, vous avez l'air encore aujourd'hui de pas vraiment en revenir.
Mais c'est vrai. Ben, c'est vrai, parce que je crois que lui-même, il a halluciné. Non, mais oui, mais c'était sans appel. Mais en plus, je me souviens exactement de l'énergie que j'avais. Et puis, c'est exactement la même que pouvait avoir ma grand-mère, Atani Kagda. C'est vraiment dans ça, non, jamais. Et c'était juste non recevable.
Faudrait que vous expliquiez.
On arrive, mes cousins nous faisaient visiter Tbilissi, mon frère Cyric et moi, et puis on arrive en retard au dîner familial, sauf que franchement, la notion du temps en Géorgie, pardon, mais alors vraiment, c'est oriental hein, pour ça. Donc, on dit dans 5 minutes, et finalement, c'est 1 heure, enfin bon. On arrive en retard, bon, ils nous attendaient. Mon père, furieux, se met à nous hurler dessus et à vraiment gâcher l'ambiance, mais vraiment. La table était, comme toujours en Géorgie, couverte de plats, de mets extraordinaires qu'ils avaient mis des heures et des heures à faire. C'est une famille, mes cousins n'avaient vraiment pas un rond, ils sont mis en 4 pour nous accueillir du mieux possible. Et l'autre, sous prétexte d'un quart d'heure ou d'une demi-heure de retard, nous fout en l'air la soirée. Non, non. Et puis une obsession de perdre son temps, et je lui dis mais prends-le ton temps au lieu de le perdre, bordel. Voilà, c'était presque philosophique entre lui et moi. Et c'est pour ça que je fais référence à Oblomov, parce que j'ai ressenti exactement la même chose entre Oblomov et Stolz dans le Oblomov de Goncharov. C'est le capitaliste qui va absolument utiliser le temps, et il ne faut pas perdre son temps, il faut que tout soit rentable. Mais merde, non, non. Et voilà. Et pourtant, mon père était de gauche, mais j'étais plus de gauche que lui.
On écoute le tube que vous avez choisi.
Ah oui, qu'est-ce que j'ai choisi comme tube? J'ai oublié.
Alors, vous avez choisi un tube d'une chanteuse qui est vraisemblablement extrêmement populaire en Europe de l'Est et notamment en Russie.
Oui.
Pour ma part, je ne la connaissais pas.
Oui. Alla Pugacheva. Je vous raconterai la petite histoire autour de cette chanson.
J'y compte bien.
Ah oui.
Alors.
Da 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 da.
Жил был художник один.
J'adore.
Дом
pouvez chanter, hein.
Hein?
Vous pouvez chanter, hein.
Mais je connais pas les paroles au début, je connais le refrain par cœur, mais pas les débuts, non. C'est l'histoire de Pirosmani, hein.
Qui est un peintre.
Le peintre géorgien qui est exposé dans cette galerie où je passe la nuit, qui est le peintre géorgien le plus connu au monde, et en fait tombe amoureux d'une actrice française qui vient se produire dans un cabaret qui s'appelait Marguerite de Sèvres, et il tombe amoureux d'elle, et la légende raconte qu'il couvre la cour de l'immeuble où elle habitait à Tbilissi, il la couvre la nuit de roses, et elle ouvre la fenêtre le matin et la cour de l'immeuble est couverte de millions de roses. D'où «Кто влюблён мистериоз? Свою жизнь я тебя превратил к звезде. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён мистериоз? Свою жизнь я тебя превратил к звезде». Ouais, c'est beau. Mais c'est surtout avec ma femme, on allait dans un cabaret qu'on adorait, qui s'appelait le Jaguarov. Et on a passé des nuits entières avec les tziganes et avec les chanteurs, les musiciens russes et tziganes. Et on chantait entre autres cette chanson à tue-tête, mais à tue-tête. Des nuits entières, on a passé avant d'être parents. Après, on s'est calmé. Mais les premières années, c'était génial. On passait notre vie là-bas. Oh là là, les nuits extraordinaires qu'on a eues. C'est tellement libre, c'est tellement... ça emporte, quoi.
Vous aimez chanter et danser, vous?
J'adore ça, j'adore ça. J'adore la joie. Non, mais c'est vrai, j'adore la joie. Je suis joyeux, hein. Non, mais avec des moments de gouffre. Mais je suis joyeux et j'adore la joie et j'adore l'expression. Mais surtout le partage, en fait. Je pense que c'est plus le partage que la joie en elle-même. Ah ouais, la fête, quoi.
On passe à votre carte blanche?
Oui, carte blanche.
Pour sa carte blanche, Guillaume Gallienne a choisi de lire un extrait de la plaidoirie que Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, a prononcé lors du procès des attentats de janvier 2015. Cette plaidoirie a été publiée sous le titre « Le droit d'emmerder Dieu ».
Les 3 mois de ce procès ont été tragiques, mais ils ont été un formidable accélérateur de la marche de notre histoire collective jusqu'à nous conduire à la croisée des chemins. Je ne sais pas quelle direction nous prendrons, celle du crépuscule des lumières ou celle d'une nouvelle aube. Dans tous les cas, il y aura probablement et malheureusement d'autres attentats, d'autres morts et d'autres procès. Alors autant que ce soit pour redevenir ce peuple qui, il y a bien longtemps, inspira l'idée de la liberté au monde, celle de l'acceptation de l'autre. C'est notre rêve commun depuis 300 ans et nous n'en avons pas de rechange. Il n'y a pas de salut dans la lâcheté. J'espère que nous ne serons pas la génération qui aura tourné le dos à son histoire et à son avenir. Le temps est venu pour moi de prononcer mes derniers mots. Ils seront pour Charb, évidemment. J'ai tenu à ce que Denise et Michel, ses parents, soient dans cette salle. Votre fils était magique. Il faisait partie de ces êtres qui laissent une trace éternelle chez ceux qu'ils croisent. Il nous inspire, il nous oblige. Et dans les moments de doute, quand la lassitude nous gagne, quand on en a assez, quand on a envie de retrouver une vie normale, c'est encore lui qui nous donne du courage. Charlie vivra. C'est extraordinaire. Nous oblige. Je trouve ça extraordinaire quand la mémoire où le deuil peut servir, continue à servir en fait, continue à apporter. Au lieu d'anéantir ou de détruire ou d'empêcher, il, au contraire, il permet.
Et vous vous arrêtez sur ce mot, nous oblige.
Ouais, c'est quelque chose d'essentiel chez moi.
L'idée d'un devoir.
Le devoir fait un peu réducteur. Il y va de l'honneur, mais d'un honneur commun. C'est pas solitaire du tout. Hein. Qui nous oblige, c'est vraiment... c'est une forme d'humanisme. C'est vraiment collectif. On se sent porté, on se sent tenu. C'est une colonne vertébrale. Ça me maintient, ça me... C'est un moteur extraordinaire de courage, entre autres, et de partage.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo.
Ah oui ?
Oui.
Un selfie ?
Non, avec un Polaroid.
Ah d'accord,
voilà.
Ok. Et ensemble ou non ?
A priori, non.
Pourquoi ?
L'idée, c'est que moi, je vous prenne en photo, en fait.
Ah, pardon, ok, d'accord. Vous voulez pas qu'on fasse un selfie ? C'est plus sympa.
Allez, on fait ça. Alors, attendez.
Il est où le bouton ? Parce que si vous voulez... Allez, là, ça va.
Ouais. Votre...
Alors, eh ouais.
Ça devrait...
Ah, j'adore.
Voilà. On va attendre qu'elle se débloque.
Ouais. Les Polaroids, c'est vraiment l'enfance. Le jaunissant, la couleur qui se délave comme ça, c'est vraiment...
Je crois qu'on est en très gros plan.
Mais ça raconte l'histoire, ça raconte le temps qui passe, les Polaroids. Contrairement au numérique, le pixel, il fiche tout. Alors que là, ça raconte le temps qui passe. C'est génial parce qu'on n'a pas d'âge. Mais là, regardez, on pourrait exactement avoir la même tête il y a 15 ans. On avait la même tronche. Non, mais c'est drôle. Ah, j'adore. Et en plus, on a l'air d'étudiants alors qu'on est à la Cité internationale universitaire. C'est génial.
Merci, Guillaume Gallienne.
Oh, merci, Rebecca Manzoni. C'est pour moi ? Non, c'est pour vous.
Ah ouais, c'est pour
vous
moi.
Vous m'enverrez une copie. Mais non, mais j'adore, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est des beaux souvenirs, je trouve. Merci beaucoup.
Le buveur de brume de Guillaume Gallienne est publié chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Koyen Guyane réalise Totemique et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Perrine Malinge programme les invités de l'émission. Ilinka Negulesco et Célestine Babinel ont préparé, tandis que Jean-Baptiste Audibert a choisi les morceaux de notre BO. Et la semaine prochaine, je vous emmène chez Juliette Armanet et tout de suite, je vous emmène dans le studio d'à côté avec Ali Rebéi. Salut Ali!